Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rencontre très particulière puisqu'il s'agit d'une rencontre qui consacre deux années de prix Chadourne puisque l'année dernière la foire n'a pas pu avoir lieu. Nous avons sur scène donc le prix 2021 Guillaume Cyr pour Avant la longue flamme rouge, publié chez Calman Lévy. Et puis nous avons Patrick Deville pour Amazonia, publié au Seuil, et vous étiez, et vous êtes, le prix 2020. Donc il y a peut-être un saut quantique dans cette histoire, parce que vous êtes mis à l'honneur en 2021 pour votre prix 2020. Et à côté de vous, Lilith Pittman-Chadourne, qui est membre fondateur de l'Association des Amis Chadourne, et la présidente, Madame Fauché, est ici dans le public. Juste Lilith, peut-être qu'on pourrait expliquer en quoi consiste ce prix, déjà, et puis vous nous direz aussi pourquoi, comment ces deux grands écrivains ont été récompensés.
Merci. Eh bien, le prix Chadourne est né par rapport aux écrivains Louis et Marc Chadourne, qui sont des écrivains voyageurs. Et puis, on a, après la création de l'association en 2011... On a décidé de créer ce prix Chadourne grâce à l'intervention, justement. L'occasion s'est présentée hier soir quand le Grand Prix de la langue française a été décerné à Pierre Bergougnoux. En 2017, le Grand Prix de la langue française avait été décerné à Jean-Luc Coatalem. Jean-Luc Coatalem, qui avait, dans sa carrière, écrit une préface pour une réédition d'un roman de Marc Chadourne, Le Vasco, c'est son premier roman. Et quand j'ai rencontré Jean-Luc Coatalem, je lui ai expliqué que l'association existait et je lui ai précisé, mais est-ce que vous savez que les Chadournes sont nés à Brive? Alors, il a sauté en l'air, il est très spontané, il nous a dit, comment, m'a-t-il dit, les Chadournes sont nés à Brive, donc il faut créer un prix Chadourne. Et j'ai été accompagnée par le directeur de la culture de l'époque, Guillaume Delpirou. Je me suis tournée vers Guillaume, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on fait? Et bien, il me dit on crée un prix Chadourne, et c'est vraiment une rencontre tout à fait sympathique, et puis c'était pas prévu quoi, voilà, mais en tout cas on est très contents. Donc ensuite on a contacté des personnes connues ou d'autres inconnues et qu'on est allé rencontrer pour créer le jury, parce que monter un jury de prix littéraire, c'est pas très très facile. Donc on a Anne Barrère, Jean Brousse, Irène Frein,
Michel Fitoussi aussi.
Michel Fitoussi. Alors Michel Fitoussi a été la première lauréate en 2019 pour son roman Jeannette. Et Michel, elle est très fidèle à l'association et elle regrette beaucoup de pas être là aujourd'hui. Elle nous a envoyé un petit mot hier encore à ce sujet. Voilà.
Et puis Bernard Thomasson également.
Mais Bernard Thomasson, je l'ai rencontré sur son stand la même année. Et je suis allée lui parler du prix Chadourne. Il est natif de Brive et il ne connaissait pas les Chadournes. Alors il a été tout à fait séduit et il a accepté de nous rejoindre pour le jury.
Et aussi Michel, le grand Michel Peyramort.
Mais Michel Peyramort... Moi, je le connais depuis que je suis née ou presque. Et Michel Peyramort est le président d'honneur de l'association Les Amis des Chadournes. Il fréquentait la maison Chadourne quand il était journaliste à la montagne. Il venait chercher des renseignements. Enfin bon, voilà, quand il était jeune. Donc, c'est toute une... Ce sont des rencontres, ce sont de belles rencontres. Ça fonctionne.
Ça fonctionne, et ça oui. Fonctionne au point que... Vous nous emmenez à travers les prix que vous allez remettre tout à l'heure à 18h30 aux deux lauréats. Oui. Rappelez-moi l'endroit, c'est à
Saint-Libéral. Mais Saint-Libéral est oui. Une ancienne chapelle, c'est un patrimoine briviste, c'est tout près d'ici, et qui a été évidemment désacralisé et qui maintenant est une salle d'exposition. Actuellement, il y a une très belle exposition photo, donc... On peut très bien évoluer au milieu de toutes ces photos de Roman Ramshorn.
Merci pour cette précision. Vous nous emmenez donc en 2020 et 2021 dans deux continents très différents. Donc, oui. Avec Amazonia de Patrick Deville et puis le Cambodge avec le livre de Guillaume Cyr. Comment ces livres ont été choisis? Enfin, je vous demande pas de révéler les secrets, mais dire un peu le fonctionnement.
Alors, pour Amazonia, c'est très clair. J'ai eu un message charmant hier de Christiane Kopilov, qui est éditrice à Paris. Ce sont de très belles éditions. Elle a édité des ouvrages de Louis Chadourne et qui a regretté de ne pas être parmi nous et qui m'a sollicité pour préciser à Monsieur Patrick Deville que c'était la proposition qu'elle avait faite pour le prix 2020. C'était le choix de Christiane Kopilov, les éditions des Cendres.
Donc en fait, chacun arrive avec un choix et ensuite tout le monde lit les livres, c'est ça?
Voilà. Chaque membre du jury propose le choix d'un auteur et d'un ouvrage. Il faut que l'ouvrage soit paru dans l'année. On a approximativement de début d'année à mars, on a choisi 2020 à 2021 cette année, voilà, et l'année précédente c'était la même chose. Il faut que l'ouvrage soit publié dans l'année. Évidemment, le thème du prix, c'est un témoignage sur le monde, parce que Marc Chadourne et Louis Chadourne ont été témoins de leur temps. Surtout les reportages de Marc Chadourne, puisque Louis Chadourne est décédé très jeune. Mais Marc Chadourne, entre les deux guerres, a été considéré comme le Français qui a le plus voyagé. Donc il était diplomate, il était écrivain, journaliste. Voilà.
Vous voyez, Patrick, il y a un challenge, comme on dit en bon français, à relever. Parce que vous aussi, vous passez beaucoup de temps à voyager. Mais alors, vous voyagez à la fois dans l'histoire et la géographie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du projet Amazonia, parce que, alors certes, vous sortez Feu Noir, hein, et on parlera aussi des deux livres que vous sortez tous les deux là à cette rentrée, mais voilà, c'est un grand projet qui appartient d'ailleurs à une œuvre particulière dans votre travail.
Oui, c'est peut-être ce qu'il y a de commun avec Chadourne. Alors tout de même, avant de rendre hommage au Chadourne que je n'ai pas connu malgré mon grand âge, je veux rendre hommage par contre à Claude Duneton, que j'ai bien connu et à qui je rends hommage dans Tabac Tabac, qui est le livre français de ce cycle. Et puis je vous remercie d'être nombreux. Ça me désole un peu pour François Hollande, le pauvre, qui intervient au même moment. Mais je pense que son service de communication avait conscience de prendre un grand risque. Mais s'agissant du projet, oui, j'ai commencé il y a 25 ans à écrire un livre très long, puisque j'y suis depuis 25 ans. C'est un projet qui est un peu chadournien, de réaliser deux tours du monde sur 12 endroits du monde différents. Un premier tour du monde de l'Est vers l'Ouest, eastbound, et puis un deuxième tour du monde vers l'ouest, westbound, comme on dit dans la marine. Cette année paraît Fénois, qui est le livre polynésien, qui est donc le huitième tome de ce livre. Et quant au prix Chadourne, c'était donc il y a 2 ans Amazonia. Amazonia était le premier livre du deuxième tour du monde de l'Est vers l'Ouest. Donc Amazonia, c'est une traversée du sous-continent latino-américain depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique, depuis Belém au Brésil, en remontant le fleuve Amazone et puis les affluents et la cordillère des Andes jusqu'au port de Guayaquil en Équateur, puis Santa Elena sur la côte du Pacifique et les îles Galapagos. Et Amazonia se termine sur une plage de Tortuga Bay aux Galapagos, sur laquelle je suis avec mon fils et nous imaginons devant nous partir sous voile le navire Beagle, avec à son bord le naturaliste anglais Charles Darwin, et pour le suivant, donc Fénois, qui vient de paraître, J'ai emprunté mon tapis volant de manière à arriver à Tahiti avant Darwin, puisque le Beagle mettait le cap sur la Polynésie et fait noir, et donc la suite en Polynésie. Et ce qu'il y a de commun à ce projet, Abracadabra, le titre, donc tous ces livres se terminent en A à cause du titre générique Tabataba, qui est la formule magique qu'utilisait un jeune enfant de mon âge. C'est le premier livre que j'ai lu seul vers l'âge de 4 ans ou 5 ans. Un enfant de mon âge possédait un tapis magique sur lequel, à forme de planisphère, et il était possible de s'asseoir quelque part sur ce tapis et de prononcer la formule abracadabra et de se retrouver instantanément téléporté dans cet endroit du monde. Voilà, donc c'est le projet depuis un peu plus de 60 ans. Donc j'écris Tabataba, même si j'écris Abracadabra, même si le véritable projet Abracadabra n'a que 25 ans à peu près, parce qu'avant j'avais publié des livres aux éditions de Minuit qui étaient des livres de fiction. Ces livres sont sans fiction. Ce sont des romans sans fiction. Tous les lieux, je n'écris pas de lieux que je n'ai pas vus. Tous les personnages, toutes les dates, tous les événements sont historiquement et géographiquement vérifiables. Et donc tout se commence en 1860. Je termine et je laisse ensuite la parole au nouveau lauréat. Tous ces livres commencent en 1860. Jusqu'à aujourd'hui, puisque ce prix concerne aujourd'hui, donc ça remonte un siècle et demi, maintenant un peu plus d'un siècle et demi, puisque le premier, le Centre américain pour la vida, c'est de 1860 à 2002, et que Amazonia, c'est de 1860 à 2019, ça se termine le 21 février 2019. Tous ces livres sont scandés par le 21 février, qui est une date repère pour moi. Et Fait noir, qui vient de paraître, le Polynésien, c'est donc de 1860. C'était un cadeau pour moi parce que la première photographie de Tahiti a été prise le 15 août 1860 par un jeune médecin de marine, on disait alors chirurgien de marine, Gustave Viau, dont le petit frère, marchant sur ses traces, deviendra Pierre Loti et prendra en Polynésie le pseudonyme littéraire de Pierre Loti. Donc le dernier, Fait noir, c'est du 15 août 1860 à décembre 2020, après même que m'avait été remis le prix Chadourne.
Merci Patrick, mais enfin, ne rangez pas trop vite le micro quand même. On va passer en effet à Guillaume, mais on reviendra sur ce que vous appelez le roman sans fiction. Et donc le rapport au réel, et puis aussi le voyage père-fils, puisque ça c'est une chose qu'on trouve chez vous, Guillaume, mais peut-être plus de façon plus nette dans Les Contreforts, qui est votre nouveau livre, le rapport de la filiation et de la transmission. Pour l'instant, reparlons d'Avant la longue flamme rouge. Vous aussi, ce livre est né d'un réel contemporain.
Oui, alors merci beaucoup déjà d'être là, effectivement, alors qu'il y a des pop stars de l'autre côté. Et puis merci pour ce prix. Donc sur ce roman-là, en fait, je voudrais réagir à ce que vient d'expliquer Patrick. Je trouve ça très beau d'avoir ce prix après lui, parce que quand je suis parti écrire ce roman au Cambodge, j'avais quelques livres dans ma besace pour me renseigner sur le Cambodge, et je suis évidemment parti avec Kampuchea, oui. Écrit par Patrick sur le Cambodge, où j'ai même récupéré certains mots de vocabulaire. Vous voyez, je cherchais je me souviens même d'un nom d'arbre, les tamariniers, que je vous ai piqué, soutiré.
Mon avocat a repéré tout ça.
Voilà, donc je évidemment, les livres sont toujours des emprunts, et c'est beau pour moi de pouvoir aujourd'hui être avec vous, alors que j'étais déjà là-bas un peu avec vous. Et sur les voyages, donc, et sur l'esprit des chadournes, il y a deux manières de voyager qui sont différentes et qui pourtant peuvent nourrir la littérature, les deux. Et je pense que on a deux façons de voyager qui sont différentes. Patrick, vous l'avez expliqué, part quelque part et s'immerge dans cet endroit-là et rencontre les autres parce qu'il a décidé d'aller dans ce lieu-là et de se rendre disponible à ce lieu. Moi, le Cambodge, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un. Donc, je ne suis pas allé quelque part rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rencontrer un quelque part, vous voyez. C'est un peu inversé. J'ai rencontré quelqu'un à Montréal qui avait survécu à cette guerre civile cambodgienne entre 69 et 75. Et à partir de lui, et à partir de ça, j'ai découvert le Cambodge. Je suis allé là-bas pour suivre et comprendre la personne qui l'avait d'abord raconté. Et j'ai fait mes recherches en fonction de ça. Et moi, justement, pour le coup, et c'est là qu'on est comme au revers l'un de l'autre, sans être antagoniste, j'ai tout réinventé. C'est-à-dire que moi, tout est vrai, mais tout est faux. C'est-à-dire que il a fallu que je digère entièrement cette histoire pour en faire un roman qui soit un total roman et que j'accepte de m'approprier complètement ce que Sarah Voûte m'avait raconté. Sarah Voûte, par exemple, je vous donne un exemple parmi d'autres, mais il avait deux sœurs et un frère et il a oublié leur nom. Quand on perd sa langue, il parle plus khmer. Le Sarah Voûte que j'ai rencontré, moi, ne parlait plus khmer. Parce qu'il a été adopté après en 75, enfin...
Pardon, quel a été son itinéraire, justement ?
Eh bien, il a donc perdu ses parents dans la cohue de cette guerre civile sans être sûr que ses parents soient morts. Il les a cherchés comme un fou pendant 5 ans, dans la forêt, puis dans Phnom Penh, assiégé. Et finalement, il est parti avec une opération qui s'est appelée le Baby Lift, qui a été, depuis le Vietnam et le Cambodge, qui a embarqué un certain nombre d'enfants dont il n'était pas sûr qu'ils étaient sans parents, en fait, parce que, évidemment, cette zone du monde était tellement détruite que beaucoup de gens avaient perdu leurs parents, sans être certains qu'ils soient morts. Et les Américains ont embarqué plein d'enfants dans le Baby Lift, d'abord vers Manille, puis finalement Washington. Et ça a fait un scandale, hein, qui est très documenté, parce qu'on n'était pas sûr qu'on les avait pas kidnappés, en fait. Et puis les Khmers Rouges sont rentrés dans... Donc Sarah Voûte quitte Phnom Penh moins de 10 jours avant l'entrée des Khmers Rouges dans Phnom Penh. Et le pays a été détruit. Et donc lui a perdu après sa langue. Et quand on perd sa langue, on perd aussi sa mémoire. En fait, la langue, c'est l'appareil qui permet d'enregistrer les souvenirs. Et si jamais vous changez de langue dans un moment de votre vie, vous perdez la plupart des souvenirs que vous avez enregistrés dans l'autre langue que vous ne parlez plus. Et donc lui, il y avait beaucoup de choses dont il ne se rappelait pas. Il se rappelait des choses les plus violentes, les berges qui se rapprochent, par exemple, sur la pour ceux qui ont lu ce roman-là, quand ils sont sur la barque avec les berges qui se rapprochent, ça c'est vrai. La femme, Yai en khmer, ça veut dire la vieille dame, la femme qui l'a soignée dans la forêt, c'est vrai. Enfin, les grandes lignes narratives, évidemment, sont toutes vraies, mais j'ai quand même, il a fallu que je réinvente pour que le réel soit au service d'une sorte de vérité, du sentiment, de ce que moi j'avais ressenti quand il me le racontait, y compris avec les trous de mémoire. Et donc, vous voyez, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rencontrer un quelque part, et puis j'ai tout réinventé, donc rien n'est vérifiable. C'est là que nos romans, peut-être, sont tous les deux dans l'esprit chadournien, et sont tous les deux un mode de voyage littéraire, non pas antagoniste, mais au revers l'un de l'autre, et une manière de montrer chacun à leur manière comment le voyage mène à la littérature et la littérature au voyage, je pense.
Mais peut-être que la première question qu'on a envie de vous poser, là, c'est pourquoi vous êtes-vous à ce point attaché ? Parce que cette rencontre, vous l'avez faite il y a longtemps, il y a plus de 15 ans, il me semble, 2004 ?
Oui.
Oui, donc ça fait plus de 15 ans. Qu'est-ce qui vous a attaché à ce projet ? À quel moment ? Pourquoi est-ce qu'il vous a hanté ? Enfin, est-ce que vous avez réussi à comprendre ce rapport-là ?
Bon, j'ai rencontré cet homme qui a pris 4 balles dans le corps quand même et plus de 20 éclats d'obus dont certains étaient restés dans ses moelles. Donc c'était quand même
quand il était petit en plus.
Quand il était enfant. Et qui est devenu ensuite deuxième fauteuil de l'Orchestre Symphonique du New Jersey en violoncelle, qui a été dans les 100 meilleurs joueurs d'échecs du monde, qui était un personnage éblouissant dans ce qu'il racontait, enfin, et que j'ai accompagné aussi au tribunal parce qu'il avait des problèmes avec sa femme et il ne comprenait pas forcément bien le français, le québécois, donc j'allais traduire, si vous voulez. J'ai été proche de lui. Et il m'a raconté petit à petit sa vie et cette histoire qui, en fait, comme les Khmers rouges sont rentrés en 75 dans Phnom Penh, après il y a eu les 4 ans de Pol Pot, lui n'était pas là-bas. Et il s'est dit, je suis parti au moment où le pays a sombré dans encore pire que ce qui était la guerre civile. Et ça l'a dépossédé totalement de ce pays-là. À cause de ça, il s'est dit, je ne peux plus y retourner parce que je n'ai pas vécu ça avec eux. Donc il avait perdu ses parents, mais son pays aussi, sa langue, tout ça. Et à cette époque-là, j'avais publié donc mon premier roman. Je venais de publier mon premier roman quand je l'ai rencontré il y a à peu près 15 ans avec Denis Tillinac, qui est bien connu ici, aux éditions de la Table Ronde. Et je me disais, il faudrait qu'un jour l'écriture puisse être au service aussi de ça. Mais je n'avais pas les moyens techniques à l'époque de le faire, de raconter cette histoire. Elle était trop lourde, en fait, à porter. C'est aussi un équilibre à trouver. La littérature est un artisanat aussi. J'avais pas les moyens, en fait, d'écrire ça. Et donc, je me suis promis, et je lui ai promis, mais une promesse qu'on fait à quelqu'un, c'est toujours aussi une promesse qu'on fait à soi-même, parce qu'on se jure de la tenir, sinon, qui on est. Je me suis promis qu'un jour, j'aurais les moyens techniques de le faire. Il m'a fallu bien d'autres livres et des voyages, justement, pour un jour réussir à trouver, à composer l'objet comme je voulais le faire.
Merci Guillaume. Patrick, Guillaume vient de dire, il faut avoir les moyens de son livre, en fait. Est-ce que ça, c'est une chose, vous qui embrassez une matière extrêmement riche, pour pour y imprimer le sillon du roman, j'ai pas dit la fiction. Est-ce que pour vous, cette phrase-là, avoir les moyens d'un livre, avoir les moyens de ce cycle, abracadabra, est-ce que ça vous parle?
Oui, bien sûr. C'est l'avantage de la littérature par rapport au sport, c'est que les carrières sont plus longues. Et que, alors c'est un peu à double tranchant et il faut s'en méfier. Mais bien sûr qu'on progresse. Enfin, pour ma part, cela fait tout de même 40 ans que c'est mon activité principale d'écrire. Mais il faut s'en méfier. Enfin, je pense à ce titre d'une nouvelle de Malcolm Lowry. Le métier, cet étrange réconfort. Il faut faire très, très attention à ça. Parce que le temps passant, et lorsque, au bout de plusieurs dizaines d'années, on ne fait que cela, de créer des phrases, évidemment, quelque chose vient, enfin, une maîtrise vient, mais dont il faut beaucoup se méfier.
Vous dites que vous écrivez des romans sans fiction. Dans toute cette démarche qui est la vôtre, à quel moment la littérature prend sa place? Alors, c'est presque provocateur, mais...
Non.
Quand, voilà.
Non, pas du tout, ça n'est pas provocateur. En ce qui me concerne, la méthode de travail est ainsi. Il y a 3 temps successifs et extrêmement différents. Le premier temps, c'est l'acquisition du matériau. Ça dure des années. Tout d'abord, le travail en bibliothèque, la lecture de la littérature, le travail sur les archives, les séjours sur ce que les journalistes appellent le terrain, avec de nombreux allers-retours pendant quelques années. S'agissant de Kampuchea, il y a des protocoles de travail. S'agissant de Kampuchea, le Cambodgien, je terminais l'Africain Équatoria, qui est une traversée équatoriale de l'Afrique, de l'Atlantique à l'Indien. Et donc je terminais à Zanzibar cette traversée de l'Afrique lorsque j'ai appris que le procès des Khmers rouges allait s'ouvrir à Phnom Penh. Procès qu'on a attendu pendant 30 ans. Donc j'ai pris mes dispositions pour être à Phnom Penh à l'ouverture du procès. Et j'ai suivi de loin en loin, j'ai assisté de loin en loin au procès numéro 1, celui de Douk, de 2009 à 2011. Et je voulais construire le livre autour de cela. Et j'ai rencontré des avocats, des partis civils, des victimes, etc., du Khmer Rouge. Et je suis reparti de 1860, puisque c'est l'année où Henri Mouhot a découvert ou redécouvert les temples d'Angkor jusqu'à 2011. Donc il y a comme ça des protocoles, ça dure des années. Pour le dernier Fénoy, donc j'ai séjourné en Polynésie plusieurs fois et j'ai décidé au début de 2020 de retourner, de louer une cabane à Punaouya, quelques kilomètres au sud de Papeete. Et là, le protocole était complètement différent. Je voulais mener une expérience de solitude absolue pendant 3 mois dans une cabane avec une bibliothèque considérable et relire tout cela. Je suis parti avec beaucoup de livres que j'ai classés par ordre chronologique de leur écriture. Et puis à partir de cette cabane, évidemment, j'ai fait des sauts sur les archipels, au Tuamotu, aux Marquises, à l'île de Pâques, à Bora Bora, etc. Donc ça, ça dure pendant des années. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps qui est l'invention de la forme, parce que ces livres ne sont pas faits au moule. Et donc ça dure quelques mois. Pendant quelques mois, avec tout ce matériau, avec tout ce fatras, ces éclats, ces carnets, je cherche une forme. Et jusque-là, je n'ai pas écrit une phrase. Et enfin, mais vraiment, c'est la dernière activité à la toute fin, pour répondre à votre question, j'écris très brutalement ces livres, de la première phrase à la dernière phrase, dans l'ordre. Et c'est un travail qui dure 3 mois à peu près. Mais là, d'enfermement total. Et si tout va bien, parce que jusque-là, ça pourrait demeurer du récit ou de l'essai. Mais si tout va bien, c'est à cette toute fin de l'expérience que quelque chose échappe et que ça peut devenir de la littérature dans le meilleur des cas. En tout cas, c'est ce que j'espère.
Oui, enfin, on vous confirme.
Moi, je veux bien parler du procédé aussi, parce que là encore, je pense que... enfin, moi, je ne fonctionne pas du tout de la même façon. Enfin, c'est passionnant pour moi d'entendre ça et du coup de montrer comment ça peut être différent, parce que c'est étonnant pour moi de me sentir à ce point-là comme une autre face d'une même médaille, mais une manière d'aborder les choses qui est pas du tout par le même angle, en fait. Comme je disais tout à l'heure, le voyage où c'est quelqu'un qui m'a amené quelque part, alors que vous allez quelque part et vous rencontrez des gens. Là, moi, sur ma méthode, par exemple, alors que justement, moi, c'est de la fiction. Là, pour le coup, c'est de la fiction avec du roman. Moi, je pars de l'histoire. C'est-à-dire que, d'abord, avant même d'avoir un paysage, hein, c'est-à-dire que, d'abord, j'ai un enfant qui perd ses parents. Ou là, dans mon roman Les Contreforts, je me disais, j'ai repris les lignes d'un narrative, en fait, d'une histoire qui a vraiment eu lieu dans les années 70, près de Montauban, qui s'appelait l'affaire Portal, des gens qui n'avaient plus rien et qui étaient dans une maison qui s'effondrait. On leur a dit, vous devez partir, pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle ne vous appartient plus, parce que l'État l'a vendue à votre place. Enfin, vous ne payez plus rien, donc elle n'est plus à vous. Et puis en plus, elle va vous tomber dessus. Et ces gens ont dit, il n'en est pas question. On ne partira jamais de là. Et on est prêt à assumer tout, comme Antigone qui dit, quoi qu'il arrive, j'enterrerai mon frère, j'assumerai toutes les conséquences, mais je ferai ça. Et moi, je suis parti de cette histoire-là en me disant, je veux des gens à qui on dit c'est impossible de rester et qui disent, ben, nous allons vivre cette impossibilité-là jusqu'au bout. Et après, je me dis, tiens, où est-ce que je vais mettre mon histoire, dans quel décor, et à quel décor mon histoire va donner un sens. Et j'ai déjà le squelette quand je viens chercher la chair, alors que vous, je trouve que ce que vous venez de raconter, c'est vous avez la chair et vous allez vers le squelette. Enfin, je trouve que c'est... Moi, je viens chercher ma chair avec déjà mon histoire, mes personnages. Et là, je me documente pour ma forme. C'est-à-dire que j'ai ma forme et je viens la remplir. Et évidemment, ça vient donner ça vient donner un sens à la forme, parce que ça vient l'équiper, quitte à la renégocier aussi, en quelque sorte. Mais c'est, oui, je procède en fait de manière, à nouveau, il ne faut pas dire contraire, mais inverse. Depuis le squelette vers la chair, quoi. Et je ne me documente que pour mon squelette. Alors que, donc je n'ai pas cette espèce de période de friche. En tout cas, je l'ai, mais vis-à-vis de l'histoire, en fait. Pas vis-à-vis du paysage, de l'endroit, du lieu. Donc c'est pour ça.
Mais heureusement, aucune méthode. Enfin, c'est à chacun de le temps passant de s'inventer sa propre manière, sa propre méthode. Ouais. Et heureusement, ça n'est pas transmissible. Enfin, ça n'est pas reproductible.
Ah oui, tant mieux, tant mieux. Et puis c'est.
Tant mieux, il y a déjà.
Et peut-être que les deux, justement, sont dans l'esprit des Chadourne, qui en plus étaient du coup deux frères, qui avaient forcément des façons de voyager, de voir, de penser, d'écrire, nécessairement différentes. Et dans cette différence, il n'y a pas de, justement, d'antagonisme. C'est ça qui est beau, quoi. C'est qu'à la fin, c'est, quand on dit le style, c'est l'homme, enfin, c'est la personne, c'est l'individu. Le style, ce n'est pas qu'un résultat. C'est aussi une, c'est un procédé, c'est une pratique, c'est une manière de quand on dit comprendre quelque chose, ça veut dire voyez, prendre avec soi, quoi, c'est le rendre préhensible. Et je pense que le style, avant même d'être un résultat, c'est-à-dire un son de phrase, c'est une méthode, et la méthode, elle est unique. Et je pense que nos méthodes sont différentes parce que chacun on est différent.
Avec une petite méfiance en ce qui concerne la question de la méthode, justement.
Oui, le métier, voilà. Oui, vous savez que c'est pour ça que Jacques Brel a arrêté au bout de 15 ans. Il a dit « j'arrête parce que je deviens malin ». Il était au sommet de sa gloire. Il a dit ça commence à être mon métier, je deviens malin, je ne suis plus en danger. Donc j'arrête. On lui dit « mais c'est pas possible, vous êtes… » Et il est parti dans les Marquises faire autre chose.
Patrick, vous disiez tout à l'heure « si tout se passe bien… » la littérature advient, à peu près. Je pensais à ce que Jean-Christophe Ruffin m'avait dit un jour. Quand il écrit, il a besoin de se retrancher, sortir du monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur une période brève qui doit être nécessairement brève parce qu'elle est, elle est risquée. Elle est risquée parce qu'elle l'emmène très très loin de lui.
Je n'ai pas compris de qui vous parlez.
Ruffin, Jean-Christophe Ruffin. Donc, vous, quand vous avez donc toute cette matière, vous allez chercher le squelette, comme dit Guillaume, si l'expression vous parle. Mais si tout se passe bien, la littérature advient. Dans quel état avez-vous besoin de vous mettre pour que justement la littérature advienne? Je ne parle pas de drogue, hein.
Non, enfin ça c'est très très privé, quoi. Mais le... je ne m'en vante pas, quoi. Mais c'est vraiment trois mois très risqués de folie, quoi. Enfin, d'enfermement total. Et parce que là, je ne cherche plus rien. J'ai tout, j'en ai même trop. Et j'écris dans l'ordre. Mais donc, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et avec le risque de, enfin, qui m'est arrivé quelquefois, que ça se termine mal, ouais, voilà. Enfin, que ça se termine mal temporairement, enfin, voilà, de... Non, non, pas d'échouer, de séjourner un peu à l'hôpital avant de revenir.
Oui, vous avez des choses à échanger avec Jean-Christophe Ruffin, je pense. Vous parliez, alors, dans le cas d'Amazonia, c'est un voyage particulier puisque vous aviez un témoin, et plus que ça, un témoin qui était votre fils. Donc il a vu les mêmes choses que vous. Donc est-ce que c'est un problème pour vous approprier la matière et le voyage? Et puis surtout, il y a l'idée d'une transmission ou peut-être d'une co-création avec les yeux, le regard de votre fils.
C'est ce qu'il y a de particulier dans Amazonia, c'est que cette entreprise, elle est absolument solitaire. L'écriture d'Abracadabra, c'est ces jours multiples. Enfin, personne ne peut supporter ça, de toute façon. Mais je venais d'écrire un livre qui, pour moi, est très important parce que c'est le sixième. C'est le français, Taba-Taba. Et donc, depuis le début, j'avais prévu que celui du milieu, le sixième, serait le français. Et les deux plus importants sont le sixième et le douzième, qui n'est pas écrit. Mais moi, je travaille sur tous ces livres en même temps depuis 25 ans, à des états d'avancement différents. Et dans ce livre, pour écrire ce livre français, Taba-Taba, j'ai profité, je n'ai pas tué une vieille tante, mais il se trouve que au moment où j'en arrivais à Tabatabain, elle est morte, et qu'il y avait cette légende familiale de ce qu'elle appelait les pièces du fond, qui étaient emplies du sol au plafond d'archives familiales depuis l'arrivée d'Égypte de cette famille en 1860. Et j'ai utilisé ces archives, c'est-à-dire que personne n'avait rien jeté depuis le Second Empire français, des factures de bois, de lunettes, de fromage, voilà, absolument tout, des correspondances privées, des journaux intimes. Et j'ai utilisé cela pour écrire ce livre français, Tabatabain, dans lequel j'écrivais ma vie avec mon père, la vie de mon père avec son père, la vie de son grand-père avec l'arrière-grand-père, etc., sur, de manière patrilinéaire, sur cinq générations jusqu'au Second Empire. J'avais découvert cela, moi, bien sûr, en utilisant ces archives familiales. Et mon fils, qui donc à l'époque avait 28 ans, a lu Tabatabain. Et l'idée m'est venue de lui faire cette proposition d'entreprendre ensemble le voyage suivant et de continuer à écrire sur les histoires père-fils, avec cette différence considérable que nous étions tous les deux vivants. Et donc il a hésité, moi aussi, enfin c'était très risqué, mais nous nous sommes lancés dans cette traversée du sous-continent latino-américain. Il n'avait pas le choix, par contre, du lieu, parce que moi, j'en arrivais à écrire l'amazonien. C'était là ou rien. Mais donc, nous avons navigué sur ce... J'aime immensément, parce que tout de même, la Libye, c'est qu'on aime ça. Parmi les choses que j'aime, il y a naviguer, et tout particulièrement naviguer sur les fleuves, que ce soit le Mékong, la Loire, le Congo et l'Amazone, évidemment. Donc, nous avons effectué cette traversée ensemble. Et donc, j'ai repris ces histoires. Nous étions côte à côte, avec ce grand risque, en plus, évidemment, de heurts. Enfin, d'autant plus que quand on est dans une cabine de navire, on ne peut pas s'engueuler et claquer la porte et partir dans la jungle amazonienne. Enfin, ça laisse à réfléchir. Donc, nous étions tout de même condamnés à faire tout ce trajet ensemble. Ce qui fait que ce livre, enfin, du point de vue du matériau, est un peu différent des autres. Mais en même temps, les formes sont toujours différentes. Quoi. Dans Amazonia, puisque c'est celui-là qui est primé, parce qu'il y a toujours pour moi le choix de privilégier l'histoire ou la géographie dans ce qui est la progression du livre. Donc celui qui vient de paraître, Fénois, j'ai privilégié la chronologie, donc le temps, de 1860 à 2020, et la géographie, elle vient après. Je me rends sur les archipels ou les îles en fonction de ceux dont je suis les traces, y compris Brel ou Marquise. Alors que dans Amazonia, j'ai privilégié la progression géographique, ce qui fait que les histoires que je raconte dans Amazonia ne sont pas du tout chronologiques. Mais puisque nous le faisions à deux, j'ai privilégié des histoires de père et de fils à l'intérieur même du livre. Enfin, Percy Fawcett et son fils Jack Fawcett qui disparaissent dans la jungle amazonienne. Et puis ces Français, les Maufrais, dont le fils disparaît dans la jungle guyanaise et dont le père, qui est un obscur petit comptable à Toulon, abandonne tout et pendant 12 ans va sillonner l'Amazonie à la recherche de son fils disparu, qu'il n'en retrouvera évidemment jamais. Donc cette histoire de père-fils a complètement est finalement devenue le sujet d'Amazonia.
Guillaume, il y a aussi cette quête dans Avant la longue flamme rouge, cette quête des parents. On retrouve aussi dans les contreforts la question de la transmission et de la fidélité à ceux qui nous ont fait, alors ça peut remonter jusqu'aux fantômes. C'est une question importante pour vous, la filiation ?
Oui, bien sûr. Enfin, et sur le rapport père-fils, en fait, moi, mes deux derniers romans, du coup, Avant la longue flamme rouge et Les contreforts, je les ai conçus tous les deux autour d'un rapport père-fils très différent, volontairement. C'est-à-dire que Avant la longue flamme rouge, c'est l'histoire du père qui cherche ses parents. abandonné, pas, enfin, qui les perd pour des raisons qui ne peut pas s'expliquer, parce que les enfants ne peuvent pas s'expliquer les raisons qui justifient des guerres. Et donc, c'est, si on prend dans la mythologie, vous voyez Astyanax qui voit Hector partir, se battre contre Achille, qui ne comprend pas, Télémaque, puisque l'Odyssée commence avec, non pas Ulysse, mais Télémaque qui cherche son père, enfin qui ne comprend pas pourquoi son père n'est jamais revenu et qui l'attend. Et donc c'est ce sentiment d'abandon. Donc je joue beaucoup avec ça dans Avant la longue flamme rouge, sur ça plutôt qu'avec ça. D'ailleurs, évidemment, Peter Pan, qui est un livre bouleversant en fait, hein, le roman Peter Pan, sur justement l'absence des parents et ce que ça crée, ce qui est choqué là-dedans. Et puis, mon dernier roman, Les Contreforts, je voulais que ce soit non plus Télémaque, mais aîné, c'est-à-dire l'enfant qui porte ses parents sur le dos, qui en fait n'a plus ce qui dans le roman et dans le choix narratif justement mène dans des endroits très différents en fait, dans des l'idée de quelqu'un qui porte et supporte ses parents envers et contre tout, hein, qui les emmène, qui accepte du coup aussi leur vie, leur pesanteur, justement, leur souvenir, est très différente de celui qui ne connaît pas ses souvenirs, qui vient les chercher. Vous voyez, c'était pas du tout le même exercice. Et dans Les Contreforts, j'avais peut-être besoin, après Avant la longue flamme rouge, d'avoir ce rapport totalement différent à la filiation dans le récit.
Nous venons de faire un tour d'horizon passionnant entre le temps, les histoires, l'histoire, la géographie et puis le processus d'écriture. Je crois qu'ils souscrivent totalement au pari et à la mission du prix Chadourne, n'est-ce pas, Lilith ?
Oui, merci. Donc, ces témoignages sont très émouvants. Le parcours Amazonia est tellement riche. Et alors, on essaie d'avoir une carte dans la tête. On voudrait avoir un livre d'histoire parce que les références aux personnages sont très fortes. Alors, on le sait, mais de façon plus ou moins approfondie. Donc, ça donne envie, si vous voulez, quand on vous lit. On a envie d'aller plus loin dans la recherche et dans la connaissance. Et c'est très intéressant. Et donc, c'est un témoignage, c'est sur le voyage et sur les personnages, sur ces personnages historiques, sur ce qui s'est déroulé avant nous. Et évidemment, dans La longue flamme rouge, c'est cette force, la force de cet enfant. Et puis ces terribles circonstances auxquelles il est confronté, c'est le témoignage d'événements quand même qui sont très proches de nous. Donc c'est tout à fait dans l'esprit Chadourne. Marc Chadourne, dans toutes ses chroniques de voyage, bon, ses romans c'est pas la même chose, mais ses chroniques de voyage sont un témoignage sur l'histoire dans le monde entre les deux guerres, vraiment. Donc ces prix rejoignent tout à fait, et puis les membres du jury ont fait un choix tout à fait judicieux et qui nous ravit, et puis on espère évidemment continuer le prix Chadourne. Après, nous allons préparer le prix Chadourne 2022, voilà, bientôt.
En tout cas, mais de très haute qualité ce prix.
Oui, non, mais vraiment l'esprit des Chadourne sur ces témoignages. Donc j'ai évoqué Louis Chadourne pour ces témoignages sur les guerres, parce que Marc Chadourne a beaucoup écrit depuis les tranchées, à ses parents, à sa famille, on a des témoignages précis, mais Louis Chadourne a écrit un ouvrage, un conte philosophique, Le journal d'un homme tombé de la lune, qui est poignant parce que c'est son regard sur la guerre. Vraiment. Et puis, par rapport à Patrick Deville, c'est sur le voyage, sur les personnages, sur la géographie, beaucoup, beaucoup. On apprend beaucoup avec vous. Et c'est aussi tout à fait dans l'esprit Chadourne. Chadournien, comme vous avez dit. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'avoir bien voulu vous rencontrer tous les deux. C'est un beau passage. Et c'est très, très émouvant pour nous. Merci beaucoup.
C'est surtout un immense cadeau que vous nous faites tous les deux de partager ainsi votre manière d'écrire. Donc, je rappelle le prix Chadourne 2020 Amazonia de Patrick Devilly, publié aux éditions du Seuil, et le prix Chadourne 2021 Avant la longue flamme rouge de Guillaume Cyr, publié chez Kalman Levy. Messieurs, vous signez, quant à vous, Patrick, ça c'est grâce à Jean quand même, sur le stand L5, et vous, Guillaume, sur le stand L22. Merci infiniment pour ce moment, et puis merci à vous de ne pas avoir cédé à l'envie d'aller voir François Hollande.
Merci.
Merci beaucoup.